Artisans de paix. Artisans de paix, une réflexion autour de la non-violence, guidée par Yves Ardourel.
Le conflit entre Israël et la Palestine apparaît sans issue, et pourtant, une information France Info nous invite à espérer. Il y a une ville, la ville d'Abou Ghosh, petite ville israélienne de 10 000 habitants située sur les monts de Judée. Elle abrite une population majoritairement musulmane et depuis 1948, arabes et juifs y cohabitent pacifiquement. Symbole de cette bonne entente, la mosquée la plus grande d'Israël y a été construite il y a 10 ans. Maire de la ville depuis 20 ans, Salem Jaber est convaincu que les relations entre les deux communautés ne changeront pas malgré le terrible conflit à Gaza. 150 familles juives vivent à Abou Ghosh. Ici, les juifs se sentent plus en sécurité que partout ailleurs. Ils sentent qu'ils sont nos frères et que nous sommes les leurs. L'information est brève. Elle ne fait que témoigner que la paix est possible. Bonjour Daniel Vigne.
Bonjour Yves.
Dans petit ouvrage que vous avez publié sur les cahiers de Lanza del Vasto, dans l'introduction, vous dites « Lanza del Vasto a été à la croisée des temps nouveaux auxquels nous avons la chance de participer. Que l'enseignement de celui que Gandhi avait nommé Shantidas, le serviteur de paix, ne soit pas oublié, l'association des amis de Lanza del Vasto y travaille. » Et vous êtes le président de cette association, donc vous travaillez à la diffusion de la pensée de Lanza del Vasto. Comment ça s'est fait, ça ?
Alors cette association, c'est Lanza lui-même qui l'a créée en 1970, donc une dizaine d'années avant sa mort, distinctement de la communauté qu'il avait fondée et dont nous avons un petit peu parlé, ces communautés qu'il visitait et qui, en France et à l'étranger, portaient un peu le témoignage de son message, et puis qui étaient entourées aussi par des groupes d'amis, et je sais que vous avez été vous-même, Yves, acteur de l'un de ces groupes d'amis dans lesquels on réfléchissait au fond sur comment être... dans l'époque qui est la nôtre, des témoins et des acteurs de paix, de réconciliation, de vie intérieure. Eh bien, distinctement donc de cette association et de tout le mouvement qui entourait cette association, Lanza a voulu créer un petit groupe, un petit noyau, si vous voulez, de personnes qui auraient plus spécialement la charge de veiller sur son œuvre écrite. Vous savez qu'en tant qu'auteur... C'est tout un travail, au fond, et une responsabilité aussi de surveiller ce qui concerne les droits d'auteur, les rééditions, les traductions. Et Lanza, qui a tellement écrit, a été traduit dans des dizaines de langues, on peut le dire. Donc, il a confié cette tâche à quelques-uns des membres les plus proches de sa communauté. Et bien entendu, après sa mort... à plus forte raison, revenait à cette association le devoir moral de protéger, de sauvegarder, de diffuser aussi son message et son œuvre. Et c'est dans ce contexte qu'au début des années 2000, l'association m'a contacté, je n'en faisais pas partie à l'époque, ni non plus de la communauté de l'Arche d'ailleurs, j'avais d'autres engagements. Mais comme je venais de soutenir cette thèse de philosophie à la Sorbonne sur la pensée de Lanza, on m'a dit « mais il serait important que tu nous rejoignes » et de fil en aiguille, assez rapidement, j'en suis devenu président et mon épouse très chère, secrétaire. Donc ça a été aussi un peu un engagement de couple. Je dois dire que mon épouse a... encore beaucoup mieux connu Lanza del Vasto que moi, puisqu'elle a grandi, en tout cas passé toute une partie de son enfance à l'Arche, où ses parents étaient engagés. Donc c'était un petit peu aussi une affaire de famille. Et bien volontiers, nous avons pris le relais, le flambeau, depuis 15 ans maintenant, en nous efforçant de, aussi de susciter autour de nous de l'intérêt pour Lanza del Vasto, pas seulement dans les milieux directs, on va dire, de sa communauté ou de gens touchés qui connaissent déjà son message, mais plus largement aussi. Et donc, l'outil numéro un en ces années 2000, c'était évidemment de créer un site internet, ce que nous avons fait rapidement. Et je peux peut-être signaler à nos auditeurs que le site de l'association, le site officiel de cette association, lanzadelvasto.fr, présente un petit peu tous les aspects de sa vie, de son œuvre. Il est traduit en 4 langues. Il est riche sur le plan bibliographique de nombreux extraits de cette œuvre. Mais on peut aussi l'entendre enseigner. Donc il y a des enregistrements. L'entendre chanter avec sa communauté, avec son épouse. Donc on peut entendre sa voix. Et on trouve de lui une large photothèque, une vidéothèque, des exemples de ses œuvres artistiques, puisque Lanza était aussi sculpteur, dessinateur. Donc, on peut passer du temps sur ce site et par là, je dirais, découvrir un peu toutes les facettes, et elles sont très nombreuses, du personnage.
Et l'association a mission, à travers le site et à travers peut-être d'autres actions, il y a aussi des publications qui sont...
Alors il y en a un certain nombre, bien sûr. Déjà, nous avons réédité plusieurs de ses œuvres, certaines étant épuisées. Donc 5 titres ont été, au fil des ans, remis au goût du jour et parfois un peu rénovés. Les approches de la vie intérieure, les principes et préceptes du retour à l'évidence, le commentaire de l'évangile... Très beau livre. Le pèlerinage aux sources, qui est son chef-d'œuvre, et une série d'entretiens avec Claude-Henri Roquet, qui est un écrivain et un poète remarquable, intitulé Les facettes du cristal. Voilà, et puis depuis quelques années, nous nous sommes lancés dans la création d'une petite collection aussi. Je vois que vous en avez apporté quelques exemplaires, de ce qui s'appelle les Cahiers Lanza del Vasto. Ou des textes inédits, ou de belles conférences, ou des articles de réflexion aussi, sont rassemblés.
Et avec des dessins et des illustrations tout à fait originales.
Ah, vous pensez aux deux derniers numéros des cahiers qui sont... Alors ça, c'est tout à fait inédit. Ce sont les lettres de Lanza del Vasto à sa mère pendant son voyage en Inde en 1937 plus spécialement, 37 et 38. Et c'est l'année où il rencontre Gandhi. Et donc on a là, de première main, on pourrait dire, à travers cette correspondance, le témoignage direct d'un homme de 35-36 ans, vous voyez, qui est ébloui par la figure du Mahatma et son témoignage, et qui dit lui-même, je voue ma vie à faire connaître la non-violence. Et il sait qu'il va revenir d'Inde en Europe, qu'il n'est pas appelé à rester là-bas. D'ailleurs, il n'est pas parti en Inde pour poussé par je ne sais quelle quête exotique, mais vraiment pour rencontrer la figure de Gandhi, qui ne l'a pas déçu du tout. Et désormais, il est porteur de ce grand désir de revenir en Occident, faire connaître le message de la non-violence.
Donc l'association, c'est une association vivante et qui, je pense, a des projets et continue à porter.
Elle en a trop pour ses petites forces.
Pour terminer, un projet
forces.
Peut-être. Quel est le prochain projet?
Oh, écoutez, on porte sur le cœur de plusieurs choses. D'abord, on a une exposition qui est disponible, une belle exposition de dessins et qui a circulé déjà pas mal en France et qui est accompagnée de textes et de conférences éventuellement. Donc, nous l'avons et elle est disponible. À bon entendeur, salut. Et puis, parmi bien d'autres projets, la réédition d'un certain nombre de livres qui commencent à être épuisés nous tient à cœur. Et je peux peut-être vous partager cela, leur traduction dans des langues nouvelles. Nous lançons actuellement une collection en espagnol. Deux livres viennent de paraître et beaucoup d'autres sont en préparation avec des éditrices sud-américaines d'un grand dynamisme et passionnées par son œuvre. Donc c'est un peu l'aspect international qu'il s'agit désormais d'étendre, si vous voulez. Encore ce matin, j'ai reçu la réponse d'un éditeur pour une traduction du commentaire de l'Évangile en italien. Donc, une œuvre polyglotte, puisque lui-même l'était, comme je vous l'ai dit, mais une œuvre qui a un immense avenir devant elle et dont je suis absolument persuadé, voyez, qu'elle restera. Autour du petit noyau que nous sommes dans l'association de membres actifs, il y a aujourd'hui près de 200 adhérents de soutien. Et vous nous avez fait l'honneur, Yves, d'en faire partie, donc je vous en remercie. Mais beaucoup de gens, et de plus en plus largement, mesurent la chance que nous avons eue au XXe siècle d'une telle figure. Elle est inoubliable. 1901, 1981. Il a traversé à peu près tout le siècle et ses malheurs et le drame des deux guerres mondiales dont il a été ensanglanté ce siècle. Eh bien, Lanza reste pour nous un des plus beaux témoins d'un message de paix ô combien urgent, ô combien actuel et nécessaire à faire entendre, alors que la fascination pour la violence continue de nous habiter, alors que le feu de la haine s'allume partout dans le monde, qui, mieux que lui, peut nous enseigner ce chemin intérieur, ce chemin de guérison par lequel nous parviendrons, Dieu voulant, à vivre ensemble, en frères, y compris avec des gens différents de nous. Rien n'est plus urgent, je le répète, que ce recentrage, voyez, à la fois intérieur et extérieur, en pensée et en acte, autour d'une vraie cohérence, du bon sens. Au fond, Lanza était un homme de bon sens. Et si sa sagesse nous aidait à le retrouver, eh bien, je crois qu'il nous rendrait aujourd'hui le plus grand des services.
Merci, Daniel Vigne, de nous avoir fait partager et envie d'aller et de continuer sur ce chemin.
Merci à toi, Yves.